Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Jean-Jean Issoutou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre sollicitation d'entretien pour l'Académie, bien sûr, et pour Canal Académie. Est-ce que vous pouvez nous présenter, si vous le voulez bien, pour commencer, l'Association des internationalistes? C'est une association qui se veut pluridisciplinaire.
Alors, c'est une association universitaire d'étudiants avancés et également de personnes qualifiées, spécialistes qualifiées dans le domaine des relations internationales, mais pluridisciplinaire. C'est-à-dire que toutes les disciplines universitaires concernées par les relations internationales sont représentées dans cette association et le seront de façon tout à fait statutaire dans ses organes directeurs pour qu'aucune discipline ne risque d'être négligée. Alors, je rappelle quelles sont les disciplines concernées. Et ce sont les politologues ou politistes, ce sont les spécialistes de droit international, ce sont les économistes, les historiens des relations internationales, les géographes, les stratèges, pour citer les principales disciplines qui constituent le cœur de notre action.
Les juristes également?
Et les juristes de droit international, bien entendu, parce que le monde du droit est énorme.
Bien sûr.
Il est évident que ce sont les juristes de droit international qui sont les premiers concernés, mais nous avons également, pour certaines questions, des spécialistes de droit public, pour des questions constitutionnelles, concernant par exemple l'Union européenne, ils sont tout à fait les bienvenus, c'est évident.
Alors à quel besoin répond une telle association?
Eh bien au fait qu'en France, il n'y avait rien d'exactement semblable. Nous avons bien entendu des institutions diverses qui réunissent déjà différentes disciplines. On pense à l'Institut de Sciences Po à Paris. Pour la recherche, pouvons également penser à l'Institut français de relations internationales. Enfin, nous n'avions pas une association proprement universitaire réunissant vraiment de façon organique toutes les disciplines. Alors que ça existe dans la plupart des grands pays, sous la forme d'universités ou de centres de recherche. Je citerai simplement la London School of Economics pour me faire comprendre qu'il, malgré son titre un peu limitatif, regroupe toutes les disciplines dont nous parlons et encore d'autres d'ailleurs.
Enfin, ce cloisonnement est bien français, Jean-Louis?
Oui, il est tout à fait, il est spécifiquement français parce que dans notre système universitaire et également dans les structures d'organisation de nos centres de recherche, comme le CNRS par exemple, de nos systèmes de recherche, il est très difficile de sortir d'une discipline pour aller vers une autre. Ça vaut aussi bien pour la mise au point des programmes, qui doivent toujours être bien fléchés, que pour les carrières des enseignants. Il est assez difficile pour un spécialiste, par exemple, d'histoire des relations internationales, de prendre une chaire de sciences politiques consacrée au domaine international. Alors qu'en Allemagne, c'est parfaitement courant, et souvent les deux chaires d'histoire et de sciences politiques internationales sont couplées, sont combinées.
Alors
souvent.
Ce cloisonnement, à quoi le doit-on? C'est l'histoire purement ou ça répondait aussi à une nécessité?
D'abord, c'est l'histoire très largement, puis ensuite une tendance corporatiste assez évidente. On ne se parlait pas, on s'ignorait, alors que l'on traitait, c'est ça qui nous a poussé à faire cette association. Et jusqu'à très peu de temps, on s'ignorait, ça change grâce à l'évolution des esprits, différentes réformes universitaires, et puis cette association contribue à le faire changer. Mais chacun avait tendance à rester dans son coin, à veiller à son précaré, parce qu'il y avait derrière des considérations de poste, des considérations de carrière. Si on commence à faire du pluridisciplinaire, on risque que le conseil d'administration de l'université dise, mais au fond, c'est admirable ce que vous faites, c'est très très bien, mais on n'a pas vraiment besoin maintenant d'une énième chaire d'histoire, on va plutôt engager un spécialiste de droit constitutionnel européen, par exemple. Je prends un exemple comme ça. Donc chacun avait tendance à rester sur ses gardes parce que dans le système français qui a en fait toujours connu la pénurie finalement en ce qui concerne les disciplines de ce genre, chacun craignait de perdre le peu qu'il avait. Il faut de la confiance pour pouvoir collaborer avec les autres. Alors pourquoi cette pénurie? Tout simplement parce que le domaine relations internationales, en général, quelle que soit la discipline, est moins considéré en France que dans les pays voisins. Ce n'est pas la priorité du CNRS, ce n'est pas la priorité des établissements d'enseignement supérieur. Il suffit de regarder les intitulés des thèses et des chaires pour bien le comprendre. Et donc, comme ça passait au second plan, eh bien, les collègues avaient tendance à se renfermer un peu dans leur univers.
Du coup, est-ce que vous avez été bien accueilli par justement le monde enseignant, puisque précisément, si vous adoptez une attitude transversale, cela risque peut-être d'être interprété comme étant un avant-goût de bouleversement dans le monde universitaire et peut-être de postes qui seront à l'avenir supprimés, de filières qui seront peut-être amenées à collaborer davantage ?
Alors, bien entendu, il y aura toujours des inquiétudes, c'est évident, toujours. Bon. Mais fondamentalement, nous sommes frappés par la très bonne réception de notre affaire. Les collègues nous félicitent. Les jeunes gens également nous félicitent, les futurs collègues, parce que d'abord, le besoin, disons, de l'international est de plus en plus évident. Bon, et tout le monde en est conscient maintenant. Et d'autre part, les réformes universitaires en cours font que les logiques universitaires changent. Ce n'est pas la peine de penser que l'on gardera des postes, des filières, etc., si on reste crispé dans sa discipline. Au contraire, les universités passent, et les organismes de recherche passent à des projets pluridisciplinaires qui valorisent au contraire la collaboration entre les disciplines. Donc, dans une nouvelle logique, il est tout à fait rationnel que nos collègues et nos étudiants, chercheurs, adoptent une logique, elle aussi, pluridisciplinaire.
Est-ce que l'institution Éducation nationale vous accueille favorablement ?
Disons, nous l'avons fait en dehors, sous forme d'association, justement pour ne pas poser dès le départ des problèmes de structure. Il y a 3 ans, nous avions fait une tentative d'organisation plus structurée, qui n'aurait pas été une association, mais un véritable organisme universitaire sous forme de fondation de recherche, n'est-ce pas ? Ça n'a pas été accepté par les organismes concernés, et donc nous avons repris l'affaire sous forme d'association, justement pour nous payer une fois dans notre vie le plaisir de faire quelque chose sans passer par le ministère de l'Éducation. C'est une horrible transgression. Et je vous assure, c'est très agréable. Alors, bien entendu, cette plaisanterie ne signifie pas du tout que nous soyons hostiles. Au contraire, nous avons tous les encouragements. Et d'autre part, nous avons le soutien d'organismes du Quai d'Orsay, et donc du Quai d'Orsay lui-même, qui ont toujours servi d'interface avec la recherche. Depuis les années 70, le Quai d'Orsay a l'habitude de collaborer avec des universitaires, soit pour des colloques, soit pour des numéros de revue, soit pour des contrats de recherche, des programmes de recherche. Et cette longue expérience de plus de 30 ans se poursuit et elle nous donne toutes les garanties grâce à cette interface que le rôle, les besoins, les nécessités, la fidélité des uns et des autres sont respectés. Nous, c'est l'indépendance intellectuelle. Tout à fait évident, le jeu est parfaitement connu. Quai d'Orsay, bien entendu, souhaite développer le champ des études internationales en France. Il souhaite bénéficier de l'expertise de tel ou tel groupe de collègues sur telle ou telle question, mais l'indépendance est totale. Et elle ne commence pas maintenant, et c'est déjà manifesté dans ces rapports, disons, pas encore structurés, mais qui existaient entre les individus et les directions concernées du Quai d'Orsay depuis les années 70.
Alors, Jean-Jean Rizoutou, après avoir resitué l'objet, le rôle de votre association dans le paysage, j'aimerais qu'on aborde la manière peut-être typiquement française d'aborder les relations internationales. Que vont faire les spécialistes qui vont se réunir au sein de votre association ? Quels sont les travaux qu'ils vont entreprendre ? Quelle sera leur plus-value ?
Alors, bon, il ne faut pas, bien entendu, marquer ça en termes d'opposition par rapport à d'autres écoles, parce que c'est très largement maintenant transnational, c'est tout à fait clair. Ceci dit, il y a quand même, pour des raisons historiques, je dirais culturelles, et également de formation universitaire, il y a, je dirais, un plus ou une caractéristique française que personne ne conteste, d'ailleurs tout le monde l'admet. Nous attachons une importance extrême aux structures, qu'elles soient économiques, juridiques, politiques, psychologiques, culturelles. Et nous ne nous focalisons pas sur des crises. La notion de crise est très à la mode dans le domaine des relations internationales depuis les années 70. Elle a fait l'objet de toute une théorie. Je caricature, mais enfin, il faut être presque rapide. Mmh. Pour nous, les relations internationales ne sont pas une série de crises que l'on règle les unes après les autres. Il y a bien entendu des crises, mais elles répondent à des problèmes structurels de long terme. C'est question de long terme que nous souhaitons en général apporter notre contribution.
Alors, par exemple ?
Eh bien, par exemple, les questions d'évolution des structures du système international, que ce soit en Europe, où il est évident que la construction européenne représente le développement d'un certain nombre de structures, d'ailleurs compétitives, c'est loin d'être simple et loin d'être fini, mais ça n'a pas commencé avec la déclaration Schuman de 1950, On voit se développer un système européen au sens de système international de relations, au moins depuis le congrès de Vienne, et même en 1815, et même après les guerres de la Révolution et de l'Empire, et même en fait depuis les traités de Westphalie du XVIIe siècle. Et ces notions de structure qui se développent à long terme, cette notion de système, c'est quelque chose à quoi nous sommes fort attachés. Un autre exemple, nous allons consacrer la deuxième réunion de notre association en octobre 2010, l'année prochaine, au sujet suivant, l'entrée de l'Afrique indépendante dans le système international. Nous marquons un anniversaire des indépendances africaines, 50e anniversaire, 1960, en tout cas pour les pays francophones, bon. Et y compris le Congo, l'ex-Congo belge d'ailleurs. Bon. Et à partir de là, nous voulons prendre un peu de recul et montrer comment l'Afrique devenue indépendante, ou en train de devenir indépendante, s'est organisée, avec les limites, mais également ce qui a été fait, et comment elle est passée de l'état finalement de colonie à l'état d'acteur, à la fois toujours objet forcément, comme tout état, mais en même temps sujet des relations internationales. Pas n'importe comment, mais dans des structures internationales, qu'elles soient africaines, qu'elles soient mondiales comme l'ONU, etc. Et voilà ce que nous voulons étudier pour, disons, prendre un peu de recul, ne pas voir uniquement les crises qui se sont succédées en Afrique.
C'est ça, on a bien vu, la pensée qui vous anime, ce sont donc les structures, la vision un peu à long terme,
voilà.
Et pas seulement un peu à long terme, la vision à long terme que vous avez. Juste un point comme ça que je prendrais dans l'actualité africaine, vous savez que le Rwanda a choisi comme première langue, l'anglais au détriment du français. Alors vous qui êtes académicien, est-ce que vous y voyez une interprétation géopolitique? Est-ce que c'est un signe donné à la France, un mauvais signe donné à la France?
Quelque chose me dit que ce n'est pas conçu pour nous faire plaisir au départ. En même temps, hélas, ça correspond probablement à des réalités. Je vous précise, je ne suis pas moi-même africaniste, donc je serais très, très, disons, prudent là-dessus. Mais le problème de l'anglais se pose à tout le monde. Je vous fais remarquer que nous n'avons pas voulu baptiser cette association des internationalistes. Il en avait été question à un moment donné.
Francophone, c'est ça?
Oui, on avait envisagé. Volontairement, parce qu'on n'a pas voulu se montrer limitatif. Il y a un petit côté années 70, ça commence à être un peu ringard, si vous voulez, en tout cas dans l'expression. Ceci dit, et nous avons même le projet, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, nous avons le projet de mettre sur pied une revue française de relations internationales en anglais, pour toucher le public anglais, qui serait édité à Paris, mais avec un correspondant évidemment dans le monde anglo-saxon, qui serait édité en anglais, ce qui représente évidemment un effort considérable. Mais enfin, il est quand même entendu que notre objectif pour le recrutement, si je veux dire, ce sont avant tout les collègues francophones, très largement d'ailleurs. Mais nous avons déjà les collègues d'autres groupes linguistiques qui se sont inscrits. Simplement, ils savent très bien que nos colloques, nos conférences, nos travaux auront lieu en français. Voilà, bon, c'est tout. C'est évident quand on lit nos statuts sans que ce soit jamais souligné de façon exclusive, n'est-ce pas ?
Alors, je prendrai un extrait du discours que vous avez prononcé lors de la présentation de votre association à Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes. C'était le 9 octobre 2009. Juste un petit point que vous allez expliquer. Les exemples viennent immédiatement à l'esprit. Prenons-en un. L'arrêt si important du tribunal constitutionnel de Karlsruhe du 30 juin 2009 à propos du traité de Lisbonne. Alors, expliquez-vous.
Voilà, bien ça, il s'agit, n'est-ce pas, de l'arrêt du tribunal constitutionnel de Karlsruhe concernant la protestation de députés du Bundestag à propos de la ratification par le Bundestag, par la République fédérale, du traité de Lisbonne, n'est-ce pas ? Bon, alors c'est très important parce que cet arrêt de 80 pages a été très complexe, extrêmement complexe, a été interprété en général en France, il suffit d'en regarder la presse, la déclaration, a été interprété comme un coup d'arrêt donné par la République fédérale, ou du moins par son tribunal constitutionnel, à la construction européenne. C'est évidemment important.
Rien de moins.
Oui, non, mais c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, si on relit ce texte complexe à la lumière de différentes analyses, une analyse juridique, mais tenant compte de l'évolution du droit constitutionnel en Allemagne, une analyse du fédéralisme allemand tel qu'il est pratiqué et pas tel que les Français l'imaginent, et une connaissance de l'histoire de l'Allemagne et de la politique européenne de l'Allemagne, on arrive à une conclusion différente. Il ne s'agit pas de bloquer quoi que ce soit. Il s'agit simplement, justement, parce que ça devient de plus en plus sérieux, de marquer très clairement qu'il faudra respecter D'abord, les droits souverains du peuple allemand, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, dit la Cour de Cavaux, elle n'a pas dit qu'il n'y aura jamais de peuple européen. Elle veut simplement rappeler, elle dit très clairement, que tout nouveau pas important vers le fédéralisme ou une fédération européenne nécessiterait pas simplement un vote d'une loi, mais un vote de type constitutionnel, éventuellement référendum, ou en tout cas l'application des procédures constitutionnelles au Bundestag et au Bundesrat en Allemagne. Donc ça, c'est un signal. Attention, ça devient très important. Si on fait un pas important de plus, on change le système, il faut que le peuple allemand puisse s'exprimer sur les formes constitutionnelles. D'autre part, la connaissance de ce qu'est la réalité du fédéralisme allemand, qui est une sorte de compétition permanente pour savoir comment les organes, les Länder, la fédération, leur rapport, c'est une sorte d'épreuve de force permanente. Chacun essaie de tirer le maximum, bien entendu. Eh bien, il faut s'assurer, à mon avis, c'est mon interprétation, que Berlin pourra continuer à jouer ce jeu au niveau européen. C'est-à-dire que rien ne doit être fixé en dehors des règles d'un jeu qui assure l'unité de l'ensemble, finalement, bien entendu. Mais chacun ayant pu s'exprimer, ayant pu faire valoir ses droits. Berlin ne veut pas que se mette en place à Bruxelles un système où la décision unique se ferait sans réelle, non seulement consultation, mais même collaboration des différentes parties de la fédération. Berlin veut s'assurer que la construction européenne ne s'écartera pas trop du modèle du fédéralisme à l'allemande.
C'est ça, voilà. Qui reste quand même le modèle qui inspire l'Europe. Hein.
Mais oui, mais justement...
Plus que l'État jacobin français. Hein.
Oui, mais il y a peut-être quelques craintes de voir là, non pas le modèle jacobin français, mais une sorte de modèle technocratique se développer, et donc c'est le rappel d'un certain nombre de choses. Mais il est dit dans le texte de Cavaux qu'en cas d'urgence, si c'est nécessaire pour l'intérêt allemand et l'intérêt de l'Europe, le gouvernement de Berlin sera toujours en droit de ratifier des éléments importants sans être lié à un vote préalable du Bundestag. Donc cet arrêt de 80 pages qui est extrêmement complexe, en même temps la porte de sortie, si un jour un excès de prudence ou de juridisme risquait de faire capoter quelque chose d'important, le gouvernement allemand pourrait néanmoins se décider et prendre sa décision.
Alors, autre domaine que vous évoquez, Jean-Jean Issoutou, c'est l'étude des aires culturelles complexes. Et vous citez le cas de l'Iran. C'est bien sûr un objet d'étude pour vos spécialistes de l'Association des internationalistes. Alors, comment appréhendez-vous cette question ?
Eh bien, selon le jugement que l'on porte sur l'évolution de la société iranienne, on arrive à des conclusions extrêmement différentes quant aux suites possibles. Bon, si on pense qu'on assiste en ce moment à une crise entre, disons, les religieux, entre guillemets, et d'autre part une jeunesse et des classes moyennes qui veulent se libérer, alors évidemment, deux choses l'une, ou bien les religieux l'emportent, ou bien peut-être, on commence à penser, plus probablement, les couches nouvelles vont l'emporter, on aura un Iran très différent de l'Iran des ayatollahs, avec lequel on pourra négocier sans problème. Si on pense que c'est plus compliqué, que les classes moyennes peuvent certes vouloir une autre orientation que celle de la République islamique depuis 1978, mais qu'en même temps elles resteront très nationales et ne renonceront pas à la construction de l'arme nucléaire, pour prendre un exemple, on arrive déjà à une autre conclusion. Si on pense que le régime des Mollahs a été en fait déjà largement mis à l'écart par une sorte de coup d'État interne, des passes de rang, des polices parallèles, etc., avec à leur tête le président actuel, d'ailleurs, finalement. Bon, alors on arrive encore à un autre type d'interprétation. En d'autres termes, si on prend en compte toutes les complexités historiques, culturelles, sociologiques, religieuses de la société iranienne, on arrive à une gamme de possibilités dans la crise actuelle de l'Iran, je dirais, beaucoup plus étendue que ce qu'on nous dit, c'est assez noir-blanc, hein, mais on arrive à une gamme plus complexe avec des conséquences très différentes en ce qui concerne la question des armes nucléaires iraniennes.
Alors l'objet d'une association comme la vôtre, l'Association des internationalistes, c'est d'échafauder des scénarios possibles qui pourraient éclairer la décision politique.
Alors là, il faut faire très attention, nous ne refusons pas ce qu'on appelle l'expertise. Bon, notre premier objet néanmoins, il est académique, il est scientifique.
Vous le dites, hein, même, hein, cette convergence nous permet d'offrir notre expertise globale.
Voilà. Mais nous ne refusons pas d'expertise, mais il est évident que nous n'avons pas l'intention, dans le cas de l'association, chacun de ses membres fait ce qu'il veut par ailleurs, bon, nous n'avons pas l'intention de nous substituer, parce que nous n'avons pas les moyens et pas le désir, à des organismes comme, par exemple, l'IFRI ou d'autres organismes stratégiques, d'études stratégiques du même genre, à offrir, disons, des expertises sur des sujets extrêmement précis, systématiquement. Parce que nous n'avons pas les moyens, tout simplement les moyens financiers. D'ailleurs, ça coûte très cher, il faut des budgets très conséquents. Bon, ce que nous voulons faire, c'est sur la base d'un socle scientifique pluridisciplinaire extrêmement solide, offrir la possibilité dans les domaines que tel ou tel membre de l'association, tel ou tel groupe à l'intérieur de l'association pourra couvrir, d'offrir donc évidemment notre expertise, mais sans nous substituer aux organismes qui la font dans leur domaine, avec lesquels les différents ministères collaborent depuis longtemps. La différence n'est peut-être pas totalement claire, mais nous voulons, notre mission tout au moins, faire dériver nos avis sur des questions, ou nos jugements, sur des questions très actuelles, des questions qui appellent l'expertise pour des... disons des études qui seraient, comme nous disons, policy-oriented, c'est-à-dire orientées par les nécessités de la politique, par la volonté des choix politiques du décideur. Bon, nous voulons fonder cela sur notre base scientifique et académique. C'est un sous-produit, en quelque sorte, si j'ose dire. Bon,
c'est ça, pas notre objet, un débouché.
Un dérivé, c'est un débouché, c'est un des débouchés possibles. Voilà.
D'accord.
Voilà ce que je voulais dire.
Est-ce que le fait que vous soyez une association, et vous avez bien insisté sur l'indépendance qui était la vôtre, est-ce que cela vous donne toute latitude pour répondre à des sollicitations venant, je ne sais pas moi, du privé ? Prenons l'exemple, remarquez, du pétrole en Irak, justement.
Oui.
On a vu que Total, c'est dans l'actualité, s'est vu attribuer, somme toute, une maigre part du magot pétrolier irakien. Est-ce qu'on peut imaginer que vous auriez pu travailler pour que votre association peut répondre à des sollicitations privées ?
Bon, là, ce n'est pas à moi de répondre seul, parce que, bon, d'abord, nous allons tenir notre première assemblée générale en février. Et là, nous passerons de l'organisation actuelle, qui est provisoire, forcément. C'est le comité constitutif qui a lancé tout ça, qui s'est autoproclamé en quelque sorte. Mais nous allons bien entendu, à partir de l'Assemblée générale, élire un conseil d'administration qui élira un bureau, un président en définitif, etc. Bon, donc c'est à eux que ce genre de questions incombera. Mais de façon générale, sous réserve bien entendu de tous les problèmes juridiques complexes que posent les contraintes, ça serait des contraintes de recherche. Alors est-ce que c'est l'association en tant que telle ? Est-ce que c'est tel ou tel groupe issu de membres de l'association, mais se regroupant sous une autre étiquette ? Ça, ce sera à voir. Mais en tout cas, et je précise, cette expertise que nous opposons, elle n'est pas, avec ce que j'ai expliqué, dans le cadre que j'ai expliqué, n'est-ce pas ? Elle n'est pas réservée à tel ou tel acteur public ou privé. Elle est ouverte à tout le monde, mais très honnêtement, pour le secteur privé, nous n'avons pas encore eu le temps de faire les réflexions conduisant à la mise sur place, si on décide de le faire, de structures adaptées. Parce qu'il y a des questions très techniques, y compris sur le plan fiscal, etc. Une association qui ne doit pas faire de bénéfices, n'est-ce pas, à partir du moment où elle en fait, ou même si son chiffre d'affaires commence à dépasser un certain niveau, eh bien, elle passe dans un régime fiscal différent, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc,
c'est une liberté prudent. Limitée, en quelque sorte, quand même.
C'est-à-dire que, disons que sur le plan intellectuel, notre liberté est totale, sur le plan de l'expertise, à partir du moment où il faut des contrats d'honoraires, etc., là, il faudra évidemment se doter des structures adéquates. Je ne peux pas vous répondre.
Est-ce que cette association sera enchâssée dans l'Institut, vous-même qui êtes membre de l'Institut? Est-ce que les académies vont y participer d'une façon ou d'une autre ?
Pas de façon structurelle, parce que, d'une part, les académies sont très prudentes dans ce domaine, pour des raisons évidentes, et d'autre part, parce que l'association ne veut pas non plus être enchâssée, n'est-ce pas ? Bon, ma personne, après tout, si je ne suis plus président un jour, mon successeur ne sera pas forcément quand même membre de l'académie. Donc, ma personne veillera à ce que les meilleurs rapports existent, mais ils seront purement amicaux et personnels, ils ne sont pas structurels.
Il n'y a pas de rapport structurel, c'est ça, vous restez...
Non, ça c'est...
Indépendance, c'est vraiment votre volonté.
Tout à fait. Et en même temps, les académies ne souhaitent pas s'engager dans des structures de ce type en tant qu'académie. Leurs membres, oui.
Est-ce que l'on peut déjà avoir une description, ce sera la conclusion, de votre association un petit peu En chiffres, si vous deviez en délivrer un aperçu d'un
mot de mort. Écoutez, voilà, c'est très simple. Nous avons un système d'inscription électronique et la liste d'adresses que nous composons à partir de ça régulièrement atteignait 160 noms. Donc nous avons 160 plus personnes qui se sont inscrites. Il y a des dossiers en cours de traitement. Il y a un formulaire d'inscription à renvoyer qu'il faut traiter un peu par voie électronique de façon à avoir une liste d'adresses. Voilà le chiffre. Nous sommes en pleine croissance en ce moment. Donc, le chiffre global, à mon avis, sera nettement plus élevé que le 160 que je vous indique.
Et ce sont 160 spécialistes
ou... Alors, dans ces 160, vous avez des chercheurs. Comme on dit, les enseignants-chercheurs sont des professeurs d'université ou assimilés. Et vous avez des doctorants, pas mal de doctorants. Vous avez des étudiants en master 2. Ils travaillent sous la direction de tel ou tel professeur, membre de l'association en général, et qui ont été invités à adhérer, puisque nous prévoyons d'offrir, outre 2 journées par an, dans le premier temps un site, et puis bien entendu, tout ça est appelé à se développer, y compris le projet de revue quand il aura trouvé sa place. Pour le moment, nous cherchons un éditeur. Tout ça pour une cotisation, l'Assemblée Générale fixera. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle sera, mais nous souhaitons qu'elle soit modéré et particulièrement modéré pour les étudiants en master 2. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'association des internationalistes dont vous êtes le président, on aura sans doute l'occasion d'en reparler à la mesure, au fil des travaux que vous allez entreprendre et dont l'Académie pourra se faire l'écho, bien sûr. Je laisse une adresse mail asso.inter@gmail.com, asso@inter@gmail.com, l'association des internationalistes dont on aura bien compris l'esprit, à la fois l'indépendance, le caractère pluridisciplinaire qui rapproche la France peut-être de ce qui se fait ailleurs à l'étranger, qui va donner aux relations internationales peut-être un nouveau souffle. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Thank you.